BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. 14 semaines de congé quand vous avez un enfant. Est-ce que ça vous dit? Ça se passe chez Kering. On sera dans un instant avec une DRH qui mise tout sur la parentalité. C'est Béatrice Laza. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les dirigeants vont mieux après cette crise. Ça leur a presque fait du bien. On va en discuter ensemble avec Henri Vidalin, le patron de Grand Alexander, qui a commandé une étude sur la question. Et puis on va parler de l'art de la réunion et du séminaire. C'est le grand retour du séminaire en cette rentrée. On sera avec Éric Lemoine, dirigeant de House of Co-Design. Il a créé un espace dédié à l'expérience. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Béatrice Laza, DRH du groupe Kering. 40 000 personnes des marques iconiques comme Bucucci, Saint-Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Boucheron et d'autres. Bonjour Béatrice, comment on gère une marque, un groupe comme Kering avec des marques aussi connues à l'intérieur? Ça veut dire quoi être DRH de ce groupe?
Bon, tout d'abord, je vous remercie de me recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Être DRH d'un groupe comme Kering, effectivement, c'est s'occuper, développer de manière positive, harmonieuse, 40 000 personnes qui travaillent pour les marques que vous avez citées. C'est attirer, recruter, former, développer, faire évoluer des populations qui sont aussi diverses que nos effectifs dans le retail. Kering, c'est 55% de personnes qui travaillent dans les boutiques. C'est aussi 10 000 personnes qui travaillent dans la production et les ateliers. Et bien sûr, le reste dans des fonctions classiques de l'entreprise.
Mais est-ce que la marque Kering existe sur le plan des ressources humaines?
Alors, la marque existe. Déjà, Kering, c'est assez récent comme nom. Hein, c'est 2013. Ouais. On va y revenir tout à l'heure. Oui, la marque existe. Il y a un modèle dans le groupe. On dit que le groupe est là, le groupe Kering est là pour, en anglais, et puis après je vais le dire en français, c'est support, protect and challenge. Donc on va dire servir, si vous voulez, protéger et challenger. Ça veut dire que le groupe est organisé de façon à délivrer des services partagés, qu'ils soient en finance, en technologie, en digital et en RH. Donc en RH, ça veut dire la paye, l'administration, les bénéfices qui sont gérés par le groupe pour que les maisons, elles, apportent de la valeur ajoutée sur des fonctions qui sont moins cadrées. C'est aussi apporter en RH, en tout cas on apporte une plateforme de communication interne commune, qui est une plateforme digitale assez connue, qui permet à tous les salariés d'échanger, de s'informer, de poster des vidéos qui peuvent correspondre à des projets retail, qui peuvent correspondre à des projets de production. Ça permet aussi à notre PDG de parler à l'ensemble des salariés, aux 40 000 personnes, en un clic ou deux, avec une excroissance pour la Chine, puisque la plateforme n'est pas autorisée en Chine. Et puis ensuite, on a aussi un SIRH depuis 2017, qui est un SIRH commun, ce qui permet de partager toutes les positions ouvertes sur la même plateforme, c'est Workday, et ensuite à chacun de vérifier quelles sont les positions vacantes et pour quelles positions il peut appliquer d'une marque à l'autre. Donc ce qu'on essaye de pousser, c'est une mobilité interne à l'intérieur
d'un groupe.
De marque en marque.
Donc je peux passer de Boucheron à Saint-Laurent, c'est tout à fait possible.
Il y a des entretiens internes, on peut soit évoluer dans sa marque de façon verticale, on voit quels sont les jobs.
On peut bouger en horizontal.
On peut bouger, on essaye de pousser, on a encore des efforts à faire, mais c'est quelque chose qui d'ailleurs, on a un bon exemple, puisque dans nos dernières nominations de CEO, PDG des différentes maisons, ils étaient tous ici, issus du visier interne.
Vous avez l'anglais qui vous vient quand vous parlez. Vous avez énormément travaillé à l'international, notamment en Chine. C'est fondamental, ça, à l'intérieur de Kering?
Je ne sais pas si c'est fondamental. En tout cas, c'est vrai que je n'ai pas un parcours classique de DRH, puisque j'ai passé déjà 15 ans côté business. Je n'étais pas chez Kering, dans un autre grand groupe français. Donc, j'ai passé 15 ans côté marketing, brand building, communication. Et puis, je suis venue au RH en 2000. Et l'autre élément important de ma carrière, c'est que j'ai passé 25 ans en dehors de France. Je suis française, mais je suis récente en France. Et j'ai rencontré les dirigeants de Kering pour une conversation autour des ressources humaines, effectivement, lorsque j'étais en Chine, où je suis restée 10 ans.
Justement, vous dites, je ne viens pas des RH, je viens du business. Aujourd'hui, dans l'évolution du métier des RH, on parle beaucoup de stratégie, de l'importance de bien faire comprendre la stratégie aux RH, de les mêler à la stratégie. Vous, c'est une vision que vous partagez, vu que vous venez du business?
Je pense que cette vision business, oui, je l'ai toujours eue, et je crois que j'essaie permet de l'apporter aux ressources humaines, aux équipes de ressources humaines. Pour moi, un DRH, il doit aussi anticiper. Lorsqu'il voit une stratégie business, il doit déjà avoir son plan dans la tête pour se dire comment est-ce que je vais aider le business dans cette direction de développement. Il faut absolument anticiper quand on a en plus des marchés qui se développent énormément. Ce que je disais à un des DRH récemment qui préparait une business review et qui se disait, est-ce que je mets les résultats de l'enquête d'opinion salariée? Je lui dis, écoute, pour vous développer, c'est sûr que vous avez besoin de CAPEX, donc vous allez devoir le prouver à la direction financière, mais si vous n'avez pas de la partie people, vous n'y arriverez pas. Donc, je pense qu'on est dans une industrie où l'humain est vraiment au centre. Alors, toutes les industries le disent, toutes les entreprises le disent, mais ça commence par le produit. Oui. Mais déjà, le produit, la création, c'est pas un process. Hein. La création, tout ce qu'on apporte dans le luxe sur la création, elle vient de personnes déterminées, d'individus. Ensuite, la production, vous savez qu'on pousse beaucoup les savoir-faire et qu'aujourd'hui, la production, elle est principalement en Europe, beaucoup en Italie, qui est notre premier pays. La production, c'est aussi de l'humain. C'est pas tellement automatisé puisqu'on change régulièrement les collections. Et puis ensuite, dans les boutiques, vous avez ce relationnel qui fait que demain, vous allez avenue Montaigne et vous allez rencontrer le vendeur ou la vendeuse qui va vous faire rêver ou celui qui va juste vous montrer un produit et ça fait toute la différence. Donc oui, on a vraiment l'humain au centre. C'est ça qui est beau dans cette industrie.
Votre gros coup humain sur le RH, enfin moi j'appelle ça un gros coup chez Kering, c'est d'avoir annoncé il y a un an et demi quasiment le congé parent à 14 semaines, c'est beaucoup plus qu'en France, c'est beaucoup plus que dans tous les autres pays, c'est pour le parent 1, le parent 2. C'était un choix très fort. Pourquoi vous avez pris cette décision?
Je crois que c'est... D'abord, c'est une réflexion au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer la société et pour aider les nouvelles générations à se retrouver dans cet environnement de travail. J'ai pas fait partie de cette génération, mais je vois les nouvelles générations. Le luxe, c'est aussi un milieu finalement assez jeune. Et je pense que dans une carrière, il y a des moments clés, mais il y a aussi une vie personnelle qui va suivre et qui va quelquefois anticiper, prendre le dessus. Il y a des moments où on doit faire une concession sur le personnel ou une concession sur le professionnel. Et dans ces moments clés, l'arrivée d'un enfant, que ce soit une naissance ou une adoption, pour les couples, c'est important. Et donc, on a eu une première phase où c'était un congé de maternité qui soit au moins égalisé dans le monde entier, parce qu'il y a des pays très avantagés comme la France, l'Italie, les pays scandinaves, mais c'était pas le cas.
La culture de groupe, c'était important.
Oui, ça c'était une vraie culture de groupe. Donc déjà, d'avoir la maternité qui soit alignée au minimum à 14 semaines payées, et ensuite se dire, mais il faut aller plus loin. On doit aller plus loin. Et c'est l'avantage qu'a Luxe, c'est de se dire on peut se positionner sur des sujets de société. Et on le voit dans les pays scandinaves, hein, même les gouvernements sont plus avancés. Et je crois qu'on a voulu, c'était vraiment une volonté, avec le soutien de François-Henri Pinault et de toutes les maisons qui étaient d'accord. Je crois que ça n'a pas été, je ne vais pas vous dire que je me suis battue en interne pendant des mois.
On ne vous a pas dit à la direction financière, ça va coûter trop cher?
J'ai dû faire une petite étude sur le costing avec un pourcentage homme, femme, en âge,
combien
plus ou moins
de...
Combien ça pourrait coûter? C'était vraiment une estimation. Mais je crois que tout de suite, François-Henri Pinault m'a dit, mais ce qu'on ne voit pas, c'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire qu'en proposant ça, déjà, on va s'attacher à des salariés qui sont des talents et qui vont rester, qui vont se dire quand même, cette entreprise, vraiment, elle care, si vous voulez, elle prend soin de moi.
Parce que care, de caring, ça vient de prendre soin.
Oui, alors c'est le care breton, K-E-R, la maison. Et puis c'est vrai que ça sonnait comme caring. Et je crois que ça fait partie... Des valeurs du groupe. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'histoire. Maintenant, on dit qu'on a deux piliers un peu dans nos promesses d'employeur, c'est « we care and we dare ». Donc oui, ça c'est une mesure de care, mais c'est aussi dans le quotidien le care. Kering, c'est une culture très respectueuse, très, très polie, très... très sincère, je crois que c'est une culture très sincère. C'est ce qui m'a surprise et ce qui m'a séduite aussi.
C'est marrant que vous utilisiez le mot poli, c'est-à-dire qu'on se respecte dans la manière dont on se parle.
Oui, énormément. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et c'est vraiment en général quelqu'un qui viendrait au siège, je serais dès la réception. Tout le monde est particulièrement poli, sans excès.
Hein, attention.
Sincère. Moi, je crois que c'est le vrai mot, c'est une culture très sincère. Et puis le dare, eh bien, c'est parce que dans le luxe, on doit pousser les limites. On a quand même des maisons emblématiques qui, quelquefois, vont faire des choix. Certains peuvent choquer. Mais en tout cas, il y a un langage, il y a des émotions qui sont créées. Et ce dare, c'est vraiment aussi, ça fait partie de notre culture entrepreneuriale qui pousse à aller plus loin.
Je reviens d'un mot sur la question de la parentalité. Tout le monde n'est pas parent, évidemment, chez Kering. Est-ce que ça a créé une sorte d'inégalité? On dit, vous favorisez les parents, c'est pas juste.
Oui, alors après, les parents,
on les
favorise.
C'est déjà ça avec les cadeaux de Noël, hein, parfois.
Les parents, on les favorise lorsqu'ils accueillent un enfant. Alors, c'est une politique pour tous, hein. C'est une politique qui s'adresse aussi bien aux couples hétérosexuels, homosexuels, aux gens qui adoptent, aux gens qui ont
ceux
un enfant.
Ceux qui ont un enfant.
Voilà. Oui, on pourrait dire, si moi, j'ai pas d'enfant, est-ce que vous me donnez l'avantage? Je crois que le taux de natalité dans le monde, et en tout cas dans les pays où on opère, il est en dessous de deux enfants par famille. Donc je crois que on n'avantage pas les parents trop souvent. On avantage à un moment clé. Je crois qu'on a voulu à la fois donner cette mesure d'égalité un peu pionnière. On a voulu aussi, sans doute, ça, on peut nous accuser d'un biais, on a voulu avantager les femmes,
l'absurde. À travers les hommes.
À travers les hommes. Parce qu'on sait que dans un couple, si c'est un couple hétérosexuel, hein, ou un couple homosexuel, il y a l'un des partenaires qui peut rester un peu plus longtemps pour la garde de l'enfant. Et puis, il y a cette fameuse période importante. Alors, c'est vrai que je mélange des mots anglais de bonding avec l'enfant, qui fait que c'est une période clé pour la famille. Et je pense que les nouvelles générations, elles ont vraiment... elles assument vraiment ce choix.
Maintenant que vous avez secoué la parentalité dans le monde entier, c'est quoi le prochain défi sociétal?
Je crois que ça va être nos équipes qui vont nous le dire. On sort d'une enquête d'opinion salariée qu'on est en train d'analyser. Regardez, après, on ne fait pas non plus la course aux bénéfices. On est une organisation business, on a des résultats. Le retail, c'est ouvert 7 jours sur 7. La production doit aussi générer les volumes. Je crois qu'on répondra plutôt aux questions de nos équipes. Donc en ce moment, il y a la flexibilité au travail et puis un terme qu'on n'arrive pas trop à traduire, on peut dire bien-être, le well-being. Donc on regarde dans les différents aspects du well-being vers quoi on peut s'orienter pour améliorer la santé mentale. Hein, c'est un grand sujet qui est venu et qui est sans doute, qui arrive un peu des pays anglo-saxons. Mmh. On parle beaucoup de santé mentale, donc l'aide psychologique, l'attention à l'énergie, le stress. Donc ça, on travaille.
Ça,
sur des programmes.
Oui. Merci beaucoup Béatrice Laza d'être venue nous voir, DRH de Kering. On va continuer à parler de l'état des salariés et des dirigeants.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va parler salaire, notamment. Est-ce que c'est la priorité de la rentrée? On était avec Henri Vidalinck. Bonjour, président.
Bonjour.
De Grant Alexander. Vous avez mené une étude avec OpinionWay, interrogé 400 dirigeants, 500 salariés ces derniers mois. Il y a des enseignements très intéressants, notamment côté dirigeants. Cette crise, ça leur a pas fait tant de mal que ça. Ça leur a même fait du bien.
Oui, c'est un peu rapide de dire ça.
Ah
mais
bah
c'est
si,
vrai
moi
que...
je lis vos chiffres.
Bon, bah écoutez, alors ça leur a fait du bien. En tous les cas, ils sont dans une posture optimiste aujourd'hui. 80% aujourd'hui des dirigeants qui ont répondu à cette enquête nous disent « Oui, on a traversé une période difficile, mais on s'en sort pas si mal. » Et finalement, le bilan n'est pas sombre, ou pas si sombre que ça. C'est une opportunité pour nous, à la fois d'avoir travaillé sur nous, on va y revenir, et surtout, on a fait en sorte de travailler sur l'organisation de nos entreprises, on a restructuré, et d'une façon générale, on a trouvé de nouvelles opportunités. Ces nouvelles opportunités, on le sait bien, ça peut être l'e-commerce. C'est l'e-commerce dans bien des cas. Donc, globalement, écoutez, vous avez raison.
Bah oui, 63% estiment avoir progressé en tant que dirigeant. 88% ont gagné en agilité. 76% ont développé connaissance d'eux-mêmes. 87% un état positif.
Vous avez effectivement les bons chiffres. Oui, ils ressortent de là plus forts qu'ils ne l'étaient en entrant. Alors, on peut considérer effectivement que cette crise, ma foi, a apporté des résultats positifs. Oui, on est bien content d'en sortir malgré tout. Hein. Mais alors, on en sort plus fort.
Côté salarié, c'est pas exactement le même sentiment.
Alors, côté salarié,
il y a besoin de preuves d'amour.
Ouais, ah ben ça c'est exactement le point. Il y a besoin de preuves d'amour. Il y a besoin de. Finalement, il y a de bonnes intentions de la part des dirigeants. Les dirigeants disent, il faut qu'on implique beaucoup plus les collaborateurs qu'on a pu le faire dans le passé. Il faut qu'on prenne mieux en compte leurs attentes. En prenant mieux en compte leurs attentes, on va pouvoir réengager les équipes. Il y a un énorme besoin de réengagement des équipes. Et c'est vrai que les salariés sont en attente. Ils sont moins positifs que les dirigeants et les salariés. Vous l'aurez noté, le pourcentage d'optimisme est de 60%,
plus faible, 61%,
hein, oui. De leur côté, hein, si ma mémoire est bonne.
Absolument.
Ils ne voient pas forcément les salariés, ils ne voient pas forcément tout ce que leurs dirigeants ont pu mettre en place, mais ça va venir. Donc il y a un vrai sujet de communication.
Oui, non, parce que quand on voit, ils reconnaissent que leurs dirigeants ont géré la crise correctement, 71%.
Ouais. Enfin, regardez, allez un tout petit peu plus loin, vous verrez qu'on leur reconnaît une très bonne capacité à gérer la partie économique. En revanche, sur le plan social, il y a beaucoup d'attentes. Et ils considèrent qu'on a bien travaillé pour l'actionnaire et pas forcément aussi bien pour le salarié. Hein. C'est aussi ce qu'ils nous disent.
Alors vous qui faites du conseil RH, du coup, maintenant qu'on a le constat, les dirigeants sont en forme, les salariés ont besoin de preuves d'amour, comment on fait le lien entre les deux? On augmente les salaires?
Alors, écoutez, de toute façon, ça, on va être obligé d'y venir. Hein. Il y a le SMIC vient d'augmenter de 2,2% au 15 septembre. Il y a une forte attente et très probablement, on va assister en 2022 à des augmentations dans les entreprises. C'est une attente forte et probablement, on va passer par là, oui.
Première preuve d'amour.
Ouais, mais il faut des choses tangibles. Et on a besoin de toi. Et ça commence par là. Après, il y a un vrai souci de valorisation du travail. Travail individuel et travail collectif. Il va falloir remettre de la dynamique d'équipe. Après cette période difficile, 56% des entreprises sont encore en télétravail. C'est pas facile de faire revenir les collaborateurs au bureau. Hein. Moi, j'en sais quelque chose. Je suis dirigeant. J'ai pas participé à l'enquête, mais je suis un dirigeant comme les autres.
Vous avez du mal à faire revenir vos salariés.
Oui, j'ai du mal comme les autres à faire revenir les salariés.
Vous allez faire quoi pour leur donner envie?
Écoutez, je vais essayer de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et aujourd'hui, le rôle du chef d'entreprise que je suis, c'est aussi d'organiser le bien-être au travail. Ça démarre pas forcément d'ailleurs sur le lieu de travail. Ça démarre par la possibilité de se rendre facilement sur son lieu de travail. Et à titre d'exemple, nous on vient de déménager. On n'a pas besoin, comme beaucoup, on n'a pas besoin d'autant de mètres carrés que ceux que nous avions
Donc vous vous êtes
avant
réduit.
La crise. Et on s'est réduit un petit peu, mais en revanche, on est allé dans un espace qui est extrêmement bien placé.
C'est où?
Très facile d'accès, dans rue de Courcelles, dans le 8e.
Donc plein Paris, quoi.
Plein Paris. On a choisi de s'installer plein Paris. On a fait une analyse. On a regardé d'où venaient les gens.
Ouais.
Ouais, mais c'est plus cher qu'ailleurs.
Mais c'est plus
petit. Et en revanche, il y a toutes les facilités, enfin tous les services qu'on est en droit d'attendre.
Ça, pour
aujourd'hui.
Vous, ça, c'est positif,
c'est super
pour le bien-être.
Important. Oui, c'est super important. Il faut développer du bien-être. Il faut que les gens se sentent bien sur le lieu de travail. Alors, on a organisé un système d'accueil qui est performant, parce que nous, on reçoit beaucoup de candidats. Nous, on est un cabinet de recrutement par approche directe au départ. On s'est développé ensuite sur le management de transition et on a deux activités de conseil. D'une part, le leadership development et d'autre part, l'accompagnement des transformations. On a, et je voudrais témoigner ici, de l'importance du mental. Tout à l'heure,
la DRH de Kering vient de nous dire la même chose.
C'est vrai. Tout à l'heure, on disait que
la santé mentale,
bien,
c'est mon défi.
Ils s'en sentent bien, mais ils ont fait preuve d'une résilience hors norme. Et depuis bien longtemps, et chez Grant Alexander, on a compris que le mental était un élément clé. On a développé un programme qui est Athlete Thinking, qui vise à monter son niveau de performance exactement comme les athlètes de haut niveau en travaillant son mental. Voilà. Et écoutez, voilà, les dirigeants d'entreprise ont fait preuve d'un mental fort, de résilience. Il faut que l'on arrive à retrouver de la cohésion dans les entreprises. Et ça passe aussi par développement de l'intelligence collective. On en parle beaucoup, mais c'est un point important. Il faut redonner la parole aux collaborateurs.
Salaire, santé mentale et intelligence collective. Merci beaucoup Henri Vidalenc d'être venu nous voir, président de Grant Alexander. On va parler de l'art de la réunion.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Comment faire de belles réunions et de beaux séminaires? C'est aussi le sujet de la rentrée. On est avec Éric Lemoine, dirigeant de House of Co-Design. Bonjour, vous avez créé des espaces pour les séminaires d'équipe. Il y en a un à Paris et un à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il y a de mieux chez vous que je n'ai pas chez moi, dans mon bureau, chez Kering, par exemple, qu'on avait tout à l'heure, ou chez L'Oréal?
Alors, ça tombe bien puisque les gens de L'Oréal étaient chez nous il y a encore quelques minutes. Nous, notre métier, c'est de faciliter l'innovation et accélérer les transformations. Et chez House of Co-Design, on a mixé à la fois la notion de conseil, puisqu'on est des gens de conseil sur des sujets de transition écologique, de transformation digitale ou de compétences, et puis des lieux comme celui qui m'entoure là, House of Good Design, à Saint-Ouen et puis à Bruxelles, et une méthode qui est basée sur l'intelligence collective et le design thinking. Alors en fait, l'expérience House of Good Design, c'est de tout réunir au même endroit et d'accompagner les grandes organisations dans des lancements de projets, dans de l'innovation, dans de la transformation interne.
C'est à vous proposer le lieu plus les services et le conseil qui vont avec.
Exactement. Et l'atelier est un moment clé dans une démarche de transformation, puisque nous, notre idée, c'est vraiment de nous appuyer sur les collaborateurs. L'intelligence doit venir du métier. C'est le métier qui doit être embarqué. Et donc, on va faire venir 10, 15, 20 collaborateurs d'une entreprise sur un sujet pendant 1, 2, 3 jours chez nous. Et nos équipes expertes en intelligence collective et en design thinking vont aller chercher avec les collaborateurs des solutions, les prototyper, les tester et les mettre en œuvre très rapidement.
Voilà. Alors, quand vous dites design thinking, co-design, qu'est-ce que vous mettez exactement derrière ?
Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ? Design thinking, c'est une méthode qui a été inventée à Palo Alto par une boîte qui s'appelle IDEO et qui porte une notion très importante qui est celle de l'expérience utilisateur. On met l'utilisateur final au centre, c'est pas le client, c'est pas l'entreprise, c'est l'utilisateur final qui est au centre de toutes les préoccupations, et on va s'intéresser à lui et on va lui amener une solution qu'on va prototyper pour aller très très vite et avoir des feedbacks, lui faire tester, améliorer en permanence. La dimension de co-design, c'est de le faire avec les collaborateurs ou même avec les utilisateurs finaux, parce que de temps en temps, dans nos locaux, il y a des utilisateurs qui viennent et qui participent à l'amélioration d'un produit ou d'un service.
On parlait juste auparavant avec notre invité précédent de faire plaisir aux collaborateurs qui ont besoin de preuves d'amour, oui, qu'on leur démontre des choses. Organiser un séminaire chez vous, ce qui a un coût évidemment, on loue l'espace, c'est aussi prouver à ces collaborateurs qu'on les aime bien, qu'on a envie de leur faire plaisir.
Oui, c'est les deux en fait. C'est à la fois sur la forme, parce que on a un lieu qui s'y prête vraiment et qui est un lieu assez intéressant, mais aussi parce qu'on y mange très bien et que on a toute la journée des petites attentions avec un super chef pâtissier qui est juste à côté de chez nous. Mais aussi parce qu'on va les inclure dans la transformation de l'entreprise, c'est-à-dire que l'innovation en question, elle est pensée par les collaborateurs pour le reste de l'entreprise. Donc là, c'est aussi leur donner envie de rentrer dans un collectif, parce qu'en fait, ce qu'on voit avec la pandémie, et j'écoutais justement vos invités précédents, on a gagné en efficacité, en productivité comme jamais, mais par contre, on a énormément perdu en culture d'entreprise, en collectif, en sens de faire société tous ensemble, en fait. Et je pense que l'hybridation du travail qui est en train de se créer, c'est des moments où on est chez soi et on travaille efficacement, et puis d'autres moments où justement on va être en équipe et on va créer de la culture d'entreprise, on va créer de l'engagement, parce qu'on va avoir un projet commun, une vision commune, et qu'on va le faire avec les autres.
Sauf que ça, on est censé le faire au bureau. Votre concurrent, c'est le bureau. On est censé retourner dans son entreprise pour recréer du collectif. Vous créez encore un espace tiers.
Alors, nous, en ce moment, on est en train, justement, comme à Bruxelles, d'installer House of Co-Design dans les bureaux. C'est-à-dire que à Bruxelles, on est dans un centre d'affaires de 15 000 m² et on a un demi-étage des trois immeubles qui constituent ce centre d'affaires. Donc ça veut dire que tous les collaborateurs de ce centre d'affaires peuvent venir par équipe bénéficier des services qui sont à la fois le lieu, le réceptif et tout ce qui va avec, mais aussi l'accompagnement, le conseil pour leur faire réussir et accélérer leur projet. Et c'est ce qu'on souhaite développer en France, en allant s'installer, pourquoi pas, à La Défense et permettre justement à ce que le retour au bureau, l'expérience du bureau, soit meilleure. Parce que aujourd'hui, la compétition entre le bureau et la maison, elle penche plutôt en faveur de la maison. Chacun a développé son petit cocon. Et c'est, comme disaient tout à l'heure vos invités, difficile de faire revenir les gens au travail. Et nous, on est absolument persuadés que revenir au travail, c'est être avec les autres. Et tous les ateliers qu'on a fait depuis, on va dire, le mois de juin, il y a un besoin des gens de recréer du lien, de retisser des relations avec les collaborateurs. imaginer aussi les nouveaux qui viennent d'entrer. On a eu un séminaire avec la.
C'est
avec
le grand retour du séminaire. Hein. Le séminaire
ouais,
redevient.
Mais parce que les liens se sont tellement le chit-chat de la machine à café entre les bureaux a complètement disparu. Donc travailler pendant une période durée définie dans un séminaire, c'est retrouver ce lien-là. Il va falloir compenser, accélérer ce retour dans l'esprit d'équipe en fait, qui fait qu'on est en société. Faire société, c'est être ensemble.
Merci beaucoup Éric Lemoine d'avoir été avec nous, dirigeant de House of Co-Design à Paris et à Bruxelles. C'est la fin d'Happy Boulot,
merci.
Le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.